Atlantique Mobile, l'appli de Banque Atlantique en évolution constante, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine, merci d'être avec nous. Dans 30 minutes, je vous propose de commenter les résultats encore provisoires des élections législatives au Togo. Mais s'ils sont confirmés par le Conseil constitutionnel, eh bien le parti présidentiel dominerait très largement l'Assemblée nationale. Selon la commission électorale, 108 des 113 sièges de députés reviennent à l'UNIR. L'opposition ne compte donc que 5 députés. Et en vertu de la nouvelle constitution adoptée il y a 2 semaines... Eh bien, le chef de l'État, Fornia Simbe, devrait devenir le président du Conseil des ministres, une nouvelle fonction qui concentrera tous les pouvoirs sans limitation de mandat. Vos réactions évidemment nous intéressent, RFI vous donne la parole, continuez à nous rejoindre. 33 9 693 693 70 et vos nombreux commentaires, essentiellement sur WhatsApp ce matin, j'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction de RFI pour mieux comprendre l'actualité. Nous commençons la semaine avec Franck à Cotonou. Soyez le bienvenu. Bonjour Franck.
Bonjour Joanne.
Comment allez-vous ?
Ça va super, très bien.
Bon, vous avez des questions sur la guerre en Ukraine après les récents propos du président Macron.
Effectivement. Dans une interview économique, Emmanuel Macron a réaffirmé la possibilité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. Pourquoi risque-t-il sa position alors qu'elle a été critiquée par ses alliés ?
Ah oui, on se souvient qu'en février dernier, le président Macron avait créé la controverse en affirmant que l'envoi de troupes occidentales sur le sol ukrainien ne devait pas être exclu. Bonjour Franck Alexandre.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous, spécialiste des questions de défense à RFI. Pourquoi le président Macron a-t-il réitéré cette proposition qui visiblement ne fait pas l'unanimité ? Au sein de ses alliés.
Une précision, ce sont des troupes françaises. Il parlait de troupes françaises, pas de troupes occidentales. Et dans The Economist, d'ailleurs, il fait un peu plus que réitérer sa position. Le chef de l'État précise les conditions qui permettraient un engagement français en Ukraine si le front était enfoncé, dit-il. Alors ça reste vague, mais ça donne néanmoins une indication. Alors pourquoi Emmanuel Macron martèle-t-il qu'un envoi de troupes est possible ? Il a encore redit peu ou prou la même chose ce week-end, dans un entretien à la Provence et à la Tribune, eh bien parce que ça relève d'un signalement stratégique. Qu'est-ce qu'un signalement ou une ambiguïté stratégique ? Eh bien, c'est dire à un compétiteur que rien ne peut être exclu. C'est un signal de détermination, c'est aussi instiller le doute chez l'adversaire, lui rappeler qu'il ne peut pas avoir de certitude quant aux réactions du camp d'en face. Emmanuel Macron le répète, si on dit à la Russie tout ce qu'on ne fera pas, ça ouvre des perspectives d'action à Vladimir Poutine. Voilà pourquoi le chef de l'État veut entretenir le flou sur ses intentions.
Un moyen finalement de maintenir la pression sur Moscou.
C'est exactement la même dialectique qui est à l'œuvre pour la dissuasion nucléaire, Juan. Le feu nucléaire sera déclenché si les intérêts vitaux de la nation sont en jeu. Quels sont les intérêts vitaux ? Ben là, vous êtes incapable de répondre. Le flou est savamment entretenu. Le doute doit s'emparer de l'ennemi.
Franck, une autre question ?
Oui, effectivement. Quelles conséquences pourrait avoir cette nouvelle déclaration sur les relations entre la France et la Russie ?
Franck Alexandre.
Première conséquence, le Kremlin comprend que la France restera pour Kiev un partenaire et un soutien déterminé. La position de Londres, d'ailleurs, est identique. Deuxièmement, la réponse de Moscou, c'est l'agressivité qui se traduit par des attaques cyber, informationnelles, d'influence, pour déstabiliser le camp occidental. C'est à peu près tous les ingrédients d'une guerre hybride, Juan.
Ouais, des propos d'Emmanuel Macron qualifiés vendredi dernier par le Kremlin de très dangereux. En tout cas, Franck Alexandre, ce matin, vous nous avez révélé que la France avait monté et monte une opération pour fournir des missiles de croisière Scalp au plus vite à l'Ukraine.
Oui, c'est l'opération Chrysalide. Rappelez-vous, le 16 janvier 2024, au début d'année, Emmanuel Macron annonçait une nouvelle livraison à Kiev. Pour la première fois, le président français donnait un chiffre précis, 40 missiles Scalp pour l'Ukraine. Et c'est là où intervient donc l'opération Chrysalide, en référence à la métamorphose de la chenille en papillon.
L'opération secrète, hein ?
Absolument. La France a identifié plusieurs lots de missiles placés sous cocon. Les cocons, vous le savez, c'est un emballage étanche qui sert à conserver les matériels. Une remise à niveau des matériels est prévue sur une durée de 3 mois pour compléter les missiles et faire passer à chaque engin eh bien, une batterie de test. Opération strictement franco-française. Elle a commencé en janvier, dès l'annonce présidentielle, et elle devra finir dans l'année. Et c'est une démarche économique très efficace, dit une source proche du dossier, car les missiles sont livrés à l'Ukraine au quart de leur valeur. En outre, conclut-on à Paris, ce schéma industriel n'a aucun impact sur les besoins des forces françaises. L'opération Chrysalide, qui était jusque-là un secret bien gardé, Rouen, va permettre de fournir à l'Ukraine des missiles stratégiques, et ce, dans un contexte critique.
Et toutes les informations sur cette exclusivité RFI sont à lire sur RFI.fr. Franck, à Cotonou, a-t-on répondu à vos questions ?
Oui, effectivement, merci beaucoup.
Remercions surtout Franck Alexandre d'être venu dans ce studio spécialiste des questions de défense. Bonne journée à tous les deux.
Bonne journée.
10h16 à Paris, d'autres questions à la rédaction, 33 9 693 693 70. Bonjour Fousséni.
Bonjour Juan.
À Bamako, au Mali.
Effectivement.
Effectivement. Vous avez des questions après avoir vu une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux ?
Oui, oui. On vous écoute. Les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui affirme qu'un convoi de l'OTAN aurait été bombardé par la Russie sur le sol ukrainien. Ouais. Et Juan, je vais utiliser à ces questions.
Oui.
Certains disent que le scène se déroule en 6 heures. Qu'en est-il et d'où provient cette vidéo ?
D'où provient cette vidéo ? Grégory Genevrier, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Fousséni.
Merci de nous rejoindre, journaliste à la cellule Info Vérif de RFI. Un convoi de l'OTAN a-t-il été frappé par la Russie en Ukraine ? D'abord, expliquez-nous, que voit-on sur cette vidéo ?
Alors, sur cette vidéo qu'on a vue apparaître sur Internet aux alentours du mercredi 26 avril sur X et sur TikTok, on y voit une immense colonne de fumée noire s'élever au-dessus de plusieurs bâtiments ravagés par les flammes. Et sur ces images, impressionnantes qui ont été vues plusieurs millions de fois. Il est écrit en anglais, alerte rouge, la Russie a frappé un convoi militaire de l'OTAN en direction de l'Ukraine.
Ouais, sauf que vérification faite, cette vidéo n'a rien à voir avec l'Ukraine.
Eh bien non, une recherche par image inversée nous a permis de retrouver cette même vidéo publiée sur YouTube dès le 3 mars dernier. Quand on parle de recherche par image inversée, ça veut dire qu'on a pris une capture d'écran de cette vidéo, on l'a rentrée dans un moteur de recherche pour voir si cette vidéo était déjà apparue en ligne, si oui, quand et où. Résultat, l'internaute qui l'a partagée en premier parle d'un incendie sur l'usine Royal Plastic à Hébron en Cisjordanie occupée. À la cellule Info Vérif, on a donc commencé par chercher si la presse locale en avait parlé. Et effectivement, un incendie dans cette usine du nord d'Hébron a bien été rapporté dans la soirée du 27 février. Plusieurs journalistes locaux ont filmé la scène dans différents angles et grâce à ça, on a pu eh bien, croiser les images et conclure que la scène de cette vidéo dont on parle a bien été filmée à Hébron, en Cisjordanie occupée. On est donc face à un incendie et pas une frappe russe sur un convoi militaire de l'OTAN.
Et vous êtes même parvenu à savoir précisément où ont été filmées ces images.
Oui, une fois qu'on savait que ça se passait bien à Hébron, on a cherché à affiner la géolocalisation. Pour ça, on a analysé précisément la vidéo en identifiant plusieurs éléments marquants. L'usine en feu déjà, une route juste devant, un bâtiment visible à droite des images, des champs et aussi une ligne téléphonique. On en a fait un schéma sur papier en reproduisant la scène vue à plat depuis le ciel. Ensuite, on a cherché cette même disposition en utilisant les sites d'imagerie satellite comme Google Earth par exemple. Et on a fini par trouver l'endroit exact où la personne a filmé ces images. On est à environ 1400 mètres au nord de l'usine Royal Plastic.
Et sait-on qui est à l'origine de cette fausse information qui parle d'une frappe russe sur un convoi de l'OTAN ?
Eh bien, on retrouve deux principaux comptes, l'un sur X, ex-Twitter, ouvertement anti-occidental, qui parle de l'Ukraine et de l'Europe comme des régimes nazis. L'autre sur TikTok, qui détourne quotidiennement des vidéos dans le but de faire du clic, de monétiser son audience. L'objectif ici, vous l'aurez compris, c'était de surfer sur l'actualité avec le déblocage récent de l'aide militaire américaine. Plusieurs internautes ont notamment partagé cette infox pour affirmer que les impôts des citoyens américains étaient en train de partir en fumée.
Et cette même vidéo, dont les images sont surprenantes, a d'ailleurs été déjà détournée dans d'autres contextes.
Oui, en faisant nos recherches, on a trouvé plusieurs publications affirmant que ces images montrent des frappes israéliennes sur l'Iran. Mais là encore, Juan, c'était une infox.
Voilà Fousséni, a-t-on répondu à vos questions ? Êtes-vous satisfait ?
Oui, très bien répondu, c'est vraiment satisfait, merci.
Eh bien, merci à vous de votre confiance et merci à Grégory Genevrier qu'on retrouve tous les vendredis dans les Dessous de l'Infox à 17h30 temps universel, le magazine de RFI qui traque les fausses informations et vos explications, Grégory, sont à écouter à tout moment sur l'application Pure Radio. Vous cliquez sur Appel sur l'actualité et vous avez évidemment les réponses de la rédaction à toutes vos questions. À bientôt, Grégory.
À bientôt.
8h21 en temps universel, appelez-nous, exprimez-vous, on vous attend au standard. On parlera dans 20 minutes maintenant des résultats encore provisoires des élections législatives au Togo, mais on se dirige vers un raz-de-marée du parti présidentiel avec seulement 5 sièges de députés pour l'opposition, 108 pour l'Unir. Êtes-vous surpris par ces résultats? 33 9 693 693 70. Je me fais maintenant le porte-parole de Martial, burkinabé à Bruxelles. On n'arrive plus malheureusement à le recontacter. Martial avait des questions après avoir entendu parler de ce rapport de Human Rights Watch qui accuse l'armée burkinabé d'avoir exécuté au moins 223 civils dans 2 villages du nord du pays. Des faits, je le rappelle, qui remontent au 25 février. Martial a entendu que les autorités contestaient ce rapport et il voulait savoir si nous savions comment l'ONG avait mené cette enquête. Alors, qui de mieux placé, justement, qu'Ilaria Allegrosi pour nous répondre? Bonjour Ilaria.
Bonjour à vous.
Chercheuse sur le Sahel pour Human Rights Watch, comment avez-vous enquêté?
Alors, nous nous sommes appuyés sur des récits des témoins oculaires, des rescapés, des blessés, ainsi que sur l'analyse des vidéos, des photos et des images satellites. C'est-à-dire que nous avons utilisé une combinaison d'outils de collecte d'informations plus traditionnelles, tels que les entretiens avec les survivants, et d'autres outils tels que l'analyse des matériels audiovisuels, par exemple des dizaines de photographies et des vidéos qui montraient les suites des massacres, les morts, les blessés, ainsi que les fosses communes où les corps ont été enterrés.
Ouais, d'ailleurs, vous publiez des images satellites avec justement les emplacements de ces fosses communes, des images qui datent du 15 mars. Vous diriez, parce que je vous écoute attentivement, Ilaria Allegrosi, comme tous les auditeurs en ce moment, puisque, je le rappelle, le gouvernement burkinabé dénonce votre rapport, et il dénonce un rapport, je cite, affabulatoire. Vous dites avoir eu des témoins au téléphone. Combien étaient-ils et que sait-on de ces témoins exactement?
Alors, nous avons parlé avec des témoins par téléphone et aujourd'hui, les témoins se trouvent toujours au Burkina. Nous sommes bien sûr en contact avec eux, mais pour des questions de sécurité, nous ne dévoilons pas d'autres informations. Vous l'avez dit, le gouvernement a été contesté par les autorités qui ont réagi avec la censure. Ils ont bloqué l'accès à notre site web. Ils ont suspendu plusieurs médias qui avaient diffuser notre rapport.
Tout à fait.
Donc il s'agit des autorités qui semblent se soucier plus de réduire au silence les voix critiques, les informations gênantes, plutôt que d'enquêter sur les crimes dont leurs troupes sont accusées.
Ouais, ce que disent les autorités de Ouagadougou, c'est qu'une enquête est en cours. Et d'ailleurs, ils s'étonnent que pendant que cette enquête judiciaire est en cours, pour élucider les faits et identifier les auteurs, je cite, « Human Rights Watch est pu par une imagination débordante, identifier les coupables et prononcer son verdict. »
Oui, exactement. Vous l'avez dit, il faut noter que les autorités judiciaires burkinabées ont quand même annoncé l'ouverture d'une enquête sur les meurtres dans les deux villages de Soro et de Nanda. C'était le lendemain des massacres. Les procureurs du tribunal de Waiguya, qui est la principale ville de la région où les massacres ont eu lieu, a annoncé l'ouverture d'une enquête. Il a déclaré dans un communiqué qu'il y avait eu des attaques meurtrières dans ces deux villages. Il a même donné un bilan provisoire des 170 personnes exécutées. Et je trouve que c'était un geste très courageux. Comme courageux a été aussi l'action menée par les survivants de reporter les faits à la gendarmerie. Alors ces survivants, les membres des familles et des victimes veulent que justice soit faite, ils veulent savoir qui a ordonné ces meurtres, ils exigent que les responsables soient traduits en justice. Aujourd'hui, je pense qu'il est difficile de dire à quel point ces personnes peuvent espérer que justice soit faite compte tenu de la généralisation des abus militaires, de l'impunité qui en découle.
Merci Ilaria Allegrosi d'avoir pris quelques instants pour nous expliquer comment l'ONG Human Rights Watch a réalisé cette enquête. Donc on a bien compris, des témoins au téléphone, des photos, des vidéos et des images satellites. Merci infiniment et j'espère que Martial aura pu entendre vos explications là où il nous écoute, à Bruxelles. On termine cette première partie avec Djibril à Kaolack au Sénégal. Bonjour Djibril.
Bonjour Juan.
Bienvenue. Vous avez des questions sur une décision très commentée prise récemment par les nouvelles autorités du Sénégal.
C'est exact. J'aimerais tout simplement poser une question par rapport à la suspension des constructions au niveau du littoral sénégalais.
Oui.
Et la question c'est comment le président justifie-t-il cette mesure ?
Ouais, c'est vrai que depuis maintenant une semaine, tous les chantiers sur le littoral sont à l'arrêt. La décision a été prise par le ministre des Finances. Bonjour Momar Diong.
Oui, bonjour.
Vous êtes urbaniste, bonjour. Enseignant, chercheur en géographie à l'université Cheikh Diop. Pourquoi une telle décision ? Pourquoi tout stopper ?
Oui, tout stoppé parce que déjà il y avait beaucoup de problèmes sur l'aménagement du littoral au Sénégal. Et ce qu'on a vu ces dernières années, c'est qu'il y a une occupation du littoral tant que cette occupation soit réellement précédée de documents de planification qui organisent l'occupation de l'espace. Donc on voit surtout cette tendance à la privatisation du littoral et qui pose beaucoup de problèmes quant à l'accès même au littoral pour la communauté, les citoyens, les citadins en général.
Et il devient de plus en plus difficile aux Sénégalais d'avoir accès à la mer. Pour ceux qui ne connaissent pas la côte sénégalaise, le littoral est de plus en plus bétonné. Donc l'idée, c'est de suspendre les constructions. Le temps de quoi ? De vérifier que les autorisations sont en règle, que les bâtiments construits ont été construits en toute légalité ?
Oui, et que aussi, en principe, sur le littoral ne peut faire l'objet d'une appropriation privée. Ça doit être occupé à des fins d'intérêt général. Et les installations même qui doivent figurer doivent être aussi des installations quand même pas durables sur le bâti, si ce n'est que pour l'intérêt général.
Oui.
Mais ce qu'on voit, surtout sur le littoral nord, les formes d'occupation et d'appropriation, où souvent c'est à des privés ou bien à des gens bien aisés de certaines catégories sociales qui ont accès au littoral.
Ouais,
et... Alors que les communautés qui vivent dans les environs, qui ont besoin d'accès, n'ont pas cet accès. Ils voient cette occupation du littoral qui ne respecte pas ces principes.
Oui. Et c'est une décision, en tout cas, qui était très attendue, notamment par les organisations de défense de l'environnement. Momar Diong, reste avec nous. Djibril a une dernière question à vous poser.
Oui, évidemment, ma deuxième question, c'est si cette mesure était une promesse de campagne ou une demande sociale.
Alors, promesse, un peu les deux peut-être. Qu'en pensez-vous, Momar Diong ?
Ouais, moi je pense que déjà il y avait beaucoup de mobilisation des collectifs d'habitants contre maintenant ces formes d'occupation. Mais je pense que l'enjeu c'est comment replacer l'aménagement de ce littoral dans le centre de l'intérêt général. Un aménagement au service de la collectivité où toutes les composantes de la société puissent se retrouver dans ce littoral qui est aussi dans des zones où il n'y a pas beaucoup d'espace public donc disponible. L'aménagement de ces espaces-là devait servir en tout cas au moins pour ces différentes fonctions, pour répondre aussi à l'épanouissement des populations qui n'ont comme espace de loisirs que ce littoral.
Effectivement, on aura l'occasion d'en parler, d'en débattre avec les auditeurs, car c'est un sujet qui est très commenté, en tout cas cette décision est très commentée au Sénégal et on essaiera de voir aussi ce qu'il en est ailleurs, dans les autres pays sur le continent africain. En tout cas, l'interrogation aujourd'hui, c'est de savoir jusqu'où iront les nouvelles autorités. Donc tant qu'en 2020, il y a eu ces propos d'Ousmane Sonko, dans une vidéo d'ailleurs qui est devenue virale, Ousmane Sonko aujourd'hui Premier ministre, et il avait annoncé que en cas de victoire à l'élection, il raserait toutes les constructions sur la corniche. Voilà, on suivra ça bien évidemment. Merci Momar Diong, urbaniste, d'avoir été avec nous. Djibril, bonne journée à Kaolack. Continuez à nous écouter sur place et j'en profite d'ailleurs pour saluer tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment en direct au Sénégal. Restez avec nous, 10h30 à Paris.